Bonjour Bernard.
Avec vous, nous revenons sur cette semaine hallucinante aux États-Unis, semaine au cours de laquelle M. Trump a qualifié de coup d'État la tentative des démocrates d'entamer à son encontre une procédure de destitution. Il parle d'un complot mené par l'État profond. Et ça, ça vous a fait cogiter parce que c'est une expression que l'on retrouve également dans la bouche d'Emmanuel Macron.
Oui, ce sont deux situations qui n'ont pas grand-chose à voir et pourtant qui font réfléchir. Parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Donald Trump fustige tous ceux qui osent remettre en cause la source de sa légitimité, c'est-à-dire le caractère démocratique de son élection. Sauf que l'enquête russe menée par le FBI, puis par le procureur spécial Mueller, a montré que la Russie avait utilisé ses services de renseignement pour s'ingérer dans la campagne afin de faire battre Hillary Clinton, l'adversaire de Trump. Depuis, le patron du FBI a été limogé. Le ministre de la Justice a démissionné. Le président a changé 4 fois de conseiller à la Sécurité nationale, 2 fois de patron de la CIA, 3 fois de ministre de la Défense, et le mois dernier, c'était au tour du directeur national du renseignement de démissionner. Bref, beaucoup suspectent Donald Trump de ne pas faire confiance dans les hommes et les femmes qu'il a pourtant lui-même nommés à ses postes régaliens, comme s'il redoutait de les voir se servir de leurs moyens pour lui nuire.
Est-ce que le président américain, tout de même, ses craintes seraient-elles fondées ?
Alors ça dépend de quoi on parle. La plupart des gens qui ont été limogés sont un peu comme ce lanceur d'alerte qui a respecté les protocoles de remontée d'informations vers sa hiérarchie après le coup de fil de Donald Trump à son homologue ukrainien pour affaiblir son opposant démocrate Joe Biden. Ils ont agi parce qu'ils estimaient que le président mettait en danger la sécurité nationale.
Oui.
Tous ceux qui ont vu Trump franchir des lignes rouges sur bien d'autres sujets diplomatiques ou militaires ont tenté de l'avertir. Certains l'ont payé en étant virés, les autres ont démissionné, très peu sont restés. Sur l'affaire australienne, c'est pire. Demander à son allié des renseignements sur la façon dont travaillent ses propres services sur l'enquête russe, c'est nuire à la relation de confiance qui doit exister au sein de cette communauté d'alliés qui travaillent au quotidien sur des affaires bien plus graves de terrorisme ou de stratégie d'endiguement de la Chine.
Mais c'est ce qui fait tout de même la différence avec l'expression « état profond » utilisée par le président français.
Alors, le président français, lui, a parlé d'état profond pour désigner tous ceux qui, dans la diplomatie, l'armée, les services, mais aussi les think tanks ou la presse, sont hostiles à sa volonté de rapprochement avec la Russie.
Oui.
Macron, en fait, veut une administration pleinement engagée au service de sa diplomatie, même si l'on peut penser que le terme « état profond » est intimidant et nuit au débat contradictoire. Alors que ce que demande Trump à ses services, c'est de se rendre complice de son instrumentalisation de la sécurité nationale à des fins électorale ou purement politique. Reste que se confronter au soi-disant état profond, ce n'est jamais bon pour la cohésion nationale et pour la confiance que doit inspirer l'État tout court. Si l'on ne veut pas que les serviteurs de l'État se transforment en lanceurs d'alerte, alors il ne faut pas se servir de l'État comme d'un instrument politique pour sa seule ambition politique. C'est tout sauf démocratique.
Également avec nous au micro ce samedi matin, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, Régis Le Sommier. Bonjour.
Bonjour Bernard.
Régis, terrible reportage dans Match cette semaine qui a été réalisé en Inde. Il s'agit de femmes que l'on appelle les paros, P-A-R-O-S, c'est-à-dire celles qui ont un prix et donc qu'on peut acheter. C'est bien ça.
Tout à fait, pour des sommes de 300 euros. Alors, ça ne se fait pas partout en Inde, mais c'est un phénomène.
Ce qui est une grosse somme chez les pauvres Indiens, 300 euros.
Évidemment, nous sommes d'accord. Mais ce qui est terrible dans ce reportage, c'est qu'il y a une combinaison, et je vais m'expliquer, entre une tradition ancestrale qui est de favoriser les hommes et la modernité. Dans l'état de l'Haryana, qui n'est pas très très loin de New Delhi, qui est au nord de New Delhi, il y a trop d'hommes et pas assez de femmes. Pourquoi ? Parce que c'est un des premiers états à s'être doté d'échographie. Et comme la tradition veut qu'on favorise les hommes, eh bien, il y a eu massivement des avortements de
quand
fœtus
féminins. Quand on voyait que c'était
féminins.
Des filles.
Exactement.
En réalité, maintenant, il n'y a pas assez de femmes.
Il n'y a pas assez de femmes. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a des villages de célibataires comme ça. Et ces célibataires, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent des femmes dans d'autres états, dans l'est de l'Inde. Ils utilisent des intermédiaires qui sont... Il y a une espèce de mafia qui s'est montée au fil des années et qui va importer des femmes. Et alors là, les femmes sont évidemment réduites en esclavage sexuel, force de travail. Elles servent littéralement les hommes. Et ce phénomène, finalement, est devenu un phénomène très important avec évidemment aucune statistique officielle. Le gouvernement indien a toujours eu tendance à minimiser et a même joué pendant les élections sur ces hommes célibataires en disant
Si vous m'élisez, il y a un candidat, il a dit je vous garantis, vous aurez chacun une femme.
Absolument, c'est absolument. Et alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces femmes, finalement, eh bien, elles se disent il faut qu'on ait des droits, il faut qu'on commence à s'organiser. Et ça, il y a un mouvement, il y a une sorte de réveil. Mais elles se heurtent évidemment, malheureusement, à toute cette espèce de maillage de société, de tradition. Vous savez que l'Inde, c'est le pays des castes, c'est le pays où tout est figé au niveau familial et les équilibres sont très très difficiles à faire bouger, les lignes sont très difficiles à faire.
Ça s'appelle Une épouse esclave pour 300 euros, donc c'est à lire, c'est un document Paris Match, remarquable document, superbe enquête de terrain. Merci beaucoup Régis Le Sommier, merci aussi à vous François Clémenceau, à tous deux, je souhaite une excellente semaine.